Vous écoutez le podcast L'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots. Dès maintenant, profitez d'une bulle hors du temps pour explorer le monde de l'art et du spectacle, vibrez pour des artistes de tout horizon qui deviendront peut-être vos prochains coups de cœur, plongez dans les coulisses du monde artistique pour enrichir vos connaissances. Bref, dès maintenant, profitez d'une bulle de culture en trois rubriques comme autant de portes à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans cet épisode spécialité du podcast L'entrée des coulisses. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, sachez que la formule estivale est différente de la formule actuelle. La nouvelle saison est en préparation en ce moment même. Et puis si vous êtes un ou une habituée, eh bien bienvenue et cela vous fera patienter jusqu'à la nouvelle saison. Je vous propose d'écouter l'équipe de la compagnie La Danse des mots vous interpréter des extraits de textes. Alors ces textes sont mis en musique, ils sont assez courts et ils sont complétés d'une brève présentation pour en avoir un petit peu plus dans les oreilles. Alors où que vous soyez, quoi que vous fassiez, en vacances ou pas, c'est un moment rien que pour vous. Si je vous propose le nom de famille Renoir, vous allez certainement penser au peintre impressionniste Auguste Renoir. Ses tableaux les plus célèbres sont le Déjeuner des canotiers ou le Bal du Moulin de la Galette. Eh bien, dans la famille Renoir, je demande le deuxième fils, Jean. Jean Renoir était réalisateur et scénariste. Il est né en 1894 à Paris et il est mort à Beverly Hills en 1979. Oui, à Beverly Hills, car Jean Renoir a tenté la grande aventure américaine. En décembre 1940, Jean Renoir débarque à New York et le 15 janvier 1941, il signe un contrat d'un an avec la Century Fox. Son premier film s'intitule Swamp Water et quatre autres suivront. Mais ce n'est pas cette aventure américaine que vous allez entendre aujourd'hui. Dans son livre « Ma vie et mes films », Jean Renoir évoque les représentations de la Nouvelle Vague, ses souvenirs les plus marquants d'une vie consacrée au cinéma et son parcours. Guy Chouraki en a choisi un extrait, je lui laisse la parole.
Il s'agit d'un extrait du recueil « Ma vie et mes films » écrit par le cinéaste Jean Renoir, dont tout le monde des cinéphiles connaît évidemment la grande illusion ou la règle du jeu. Au cours de ma lecture, je fus attiré entre autres par les propos dans lesquels Renoir apporte quelques éléments relatifs au tournage de son film « Les Bas-fonds » avec Jean Gabin et Louis Jouvet. Et il y décrit en particulier sa vision du travail qu'il attend de ses comédiens et sur quoi repose entre autres ce qu'il décrit fort bien la création artistique selon lui, tant au niveau du cinéma qu'au théâtre, quand il cite en particulier Louis Jouvet et Michel Simon. Alors ce texte m'a permis d'enrichir le travail et les recherches que j'effectue en tant qu'animateur d'atelier théâtre. Et je suis heureux de vous le partager. Merci par avance et je vous souhaite une bonne écoute. Au cours du tournage des Bas-fonds, je découvrais Jean Gabin. C'était une découverte de taille. Je ne découvrais pas Jouvet, l'ayant découvert déjà sur la scène. C'est lui qui me découvrait et m'aidait à cette révélation constante du sujet que j'appellerais ma méthode, si je n'avais horreur de toute méthode. Gabin était au sommet de son expression lorsqu'il n'avait pas à forcer la voix. Cet immense acteur obtenait les plus grands effets avec les plus petits moyens. Je conçus à son usage des scènes qui pouvaient être murmurées. Nous ne nous doutions pas que ce style allait conquérir le monde et que les acteurs murmurants allaient être légion. Les résultats de cette mode ne sont pas toujours heureux. Gabin, d'un léger frémissement de son visage impassible, peut exprimer les sentiments les plus violents. Un autre devrait hurler pour arriver au même résultat. Le Jean bouleversait le public d'un clin d'œil. Chaque fois que cela était possible, je pratiquais la répétition à l'italienne. C'était Michel Simon et Louis Jouvet qui m'y avaient converti. Elle consiste essentiellement à réunir autour d'une table les acteurs de la scène que l'on répète et à leur faire lire le texte en s'interdisant toute expression. Cette lecture, pour être fructueuse, doit être aussi plate que celle de l'annuaire téléphonique. Pratiquement, tout acteur consciencieux apprend son rôle de cette façon et s'interdit toute réaction avant d'avoir exploré les possibilités de chaque phrase, de chaque mot, de chaque geste. Les acteurs qui donnent tout de suite une forme à leur interprétation d'un rôle ont toutes les chances de tomber dans le cliché. Chaque partie d'une pièce de théâtre ou d'un film doit être une création originale et le travail hâtif ne permet pas de sortir des sentiers battus. Telle actrice doit jouer le rôle d'une mère mise en présence du cadavre de son fils. Il y a bien des chances pour que la façon dont elle exprime sa douleur soit copiée sur du déjà vu. Ses crises et ses pleurs rappelleront les cris et les pleurs dont elle-même ou d'autres actrices se seront déjà servies. Nous voici donc réunis, acteurs et metteurs en scène, et nous nous astreignons à lire le texte. 2, 3, 20 fois si nécessaire. Soudain, dans la lecture monotone d'un texte, le metteur en scène distingue une étincelle. Ça y est. En partant de là, le comédien a des chances d'arriver à une interprétation originale du rôle. C'est magique et ça rate rarement. En somme, il s'agit une fois de plus de l'influence de l'entourage sur l'artiste. Ici, l'entourage, c'est le texte. Dans un autre cas, ce serait le maquillage ou le décor ou le costume. En un mot, je crois que la création artistique est centripète avant que de devenir centrifuge. Ce n'est que lorsque l'artiste a bien absorbé les éléments de son problème qu'il peut se permettre de se projeter lui-même. Comme me le disait Werner Krauss, l'acteur habile qui utilise des clichés aura sans doute un succès immédiat, vu la satisfaction du public de se trouver en terrain familier. L'originalité et le succès sont, à mon avis, deux éléments étrangers l'un à l'autre. Je crois cependant que l'originalité finira par apparaître en dépit des apparences, et que la gloire facile sera vite oubliée. Les gens ne connaissent le nom de Sarah Bernhardt que parce qu'il existe à Paris un théâtre de ce nom. Mon père trouvait qu'elle jouait comme une chèvre. Qui se souvient aujourd'hui de Luc-Olivier Merson, peintre en son temps, submergé de titres et de médailles? Une des raisons de croire en la vie éternelle est la pensée de Van Gogh, qui ne vendit pas une seule toile de son vivant. La reconnaissance par le public des valeurs et leur mise à leur place prennent souvent du temps. La vraie gloire est le plus souvent posthume. Il existe dans chaque film à succès une scène à laquelle on peut attribuer cette réussite. Il est impossible de déterminer à l'avance quelle sera cette scène. C'est comme une sorte de clé qui ouvre une serrure bien fermée. Cette clé peut être rouillée ou mal finie, peu importe. C'est elle qui m'ouvre cette porte. Sans que l'auteur s'en soit douté, elle permet au public de se rapprocher de tous les personnages du film. Grâce à elle, ils deviennent vivants, voire familiers. Leurs gestes et leurs discours, au lieu d'être indifférents, passionnent les spectateurs qui veulent en savoir plus sur eux. Dans les bas-fonds, la scène en question, la scène clé, c'est celle que je désigne sous le nom de « scène de l'escargot ». Elle consiste en une sorte de confession du baron, Louis Jouvet, à Peupel, Jean Gabin. Ce dernier, qui est amoureux, dit son espoir de sortir des bas-fonds et d'en sortir celle qu'il aime. Il est également décidé à abandonner son métier présent, qui est celui de voleur. « Mon père était voleur, je suis né voleur », dit Pépel. Le baron répond par un examen résumé de toute son existence. Il récapitule l'histoire de sa vie en exprimant les phases diverses par les changements de costume. Il a été ce que les costumes divers qu'il a portés au cours de sa vie l'ont fait. Tout en parlant, le baron avise un petit escargot qui grimpe le long d'un brin d'herbe. Il prend l'escargot et le place sur son doigt pour le faire grimper. J'ai assisté à plusieurs représentations des bas-fonds devant le public. Ça ne ratait jamais. Lorsque l'escargot se mettait à grimper sur le doigt de Jouvet, la salle se détendait. On sentait cette masse de spectateurs suivre avec passion les mouvements de l'escargot. Le baron leur devenait familier et il s'identifiait à Gabin pour écouter cette histoire.
Alors, ce petit moment passé avec Jean Renoir, ça vous a plu? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec vous sur vos écoutes. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos petits mots. Sinon, eh bien, soyez au rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle lecture. Et puis, vous pouvez aussi retrouver les épisodes des 3 saisons précédentes sur la plupart de vos applis de podcast. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur le tout nouveau compte Instagram du podcast pour d'autres découvertes. Il suffit simplement de taper sur Instagram « Entrée des coulisses » sans accent et tout attaché, bien évidemment. À la semaine prochaine. Allez-y, on referme les coulisses.